Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Les personnes qui arrivent d'Afrique, les personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à toutes et à tous. Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse, est en direct dans nos studios. Dans quelques secondes, on fait un point avec lui sur les projets de la ville, où en sont les travaux au Pont des Chèvres, au Carré Omio ou encore à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté. Le 30 septembre 2018, il sortait de prison après avoir été détenu pendant plus de 13 mois par Israël. Il y a quelques jours, il était à Bourg pour témoigner de ses conditions de détention et de la situation des Palestiniens, palestiniennes emprisonnées. Interview de l'avocat franco-palestinien Salah Amouri. Et quelques infos en bref à la fin de ce magazine. Jean-François Debat, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de Bourg-en-Bresse et vous êtes aussi président de la communauté d'agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse et conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-François Debat, faisons un tour des chantiers en cours dans la ville. On commence par le pont des Chèvres. Il y a les travaux du bassin d'orage, d'une partie du boulevard Herriot. On en est où?
Alors, comme on me le dit parfois et comme vous l'avez noté en vivant à Bourg-en-Bresse sur l'agglomération, nous avons un certain nombre de chantiers importants dans la ville, dont certains vont se terminer sur la fin de l'année. C'est le cas mais il faut, j'allais dire, les travaux, les chantiers, c'est aussi pour façonner Bourg de demain. Ça n'est pas juste pour le plaisir.
Vous disiez, c'est par rapport aux nuisances que ça peut apporter.
Aux nuisances évidentes sur la circulation, parfois sur les riverains eux-mêmes, donc je le mesure, mais en même temps, on ne le fait pas pour le plaisir, mais pour faire avancer la ville. En l'espèce, que nous faisons là-bas deux choses. Un bassin d'orage qui va nous permettre de stocker l'eau quand il y a de gros orages pour éviter qu'elle parte directement non traitée à la ressource 60-70 fois par an, et qui fait que nous polluons la ressource. Donc demain, l'eau sera stockée. Et c'est la raison de ce chantier important. Et ça nous permettra de ne plus renvoyer de l'eau dans la ressource. Nous pourrons progressivement la traiter une fois que l'orage sera terminé. Et puis, évidemment, nous en profitons pour refaire le boulevard dessus. Et l'engagement que j'avais pris vis-à-vis des habitants de ce quartier, c'est de mettre fin à cette espèce de double voie, cette espèce d'autoroute qu'on avait avec la barrière au milieu. Et donc, nous aurons un boulevard urbain, traité un peu comme le boulevard Lévrier vers l'Amphi, par exemple, qui permettra aux gens de traverser, qui permettra aux cyclistes d'avoir également leur place. L'ensemble des travaux est prévu pour la fin du mois de novembre. Leur fin est prévue en novembre. Et donc, d'ici la fin de l'année, nous pourrons bénéficier de ce boulevard rénové.
Dans l'interview réalisée par des jeunes du quartier fin 2018, vous avez dit « Je me bats depuis 4 ans, l'objectif sera de faire à peu près la même chose qu'à la Ressouze ». Alors monsieur le maire, cet objectif est-il maintenu ?
L'objectif est maintenu. En revanche, je dois le dire très clairement, les décisions prises par le gouvernement et notamment par au niveau de l'ANRU,
donc c'est-à-dire de taxer les organismes
d'HLM. Vous savez que le gouvernement a décidé de faire des économies en baissant les APL qui sont versés aux plus modestes des locataires HLM, et pour que eux ne soient pas impactés, a demandé aux organismes d'HLM de baisser leur loyer d'autant. Ça veut dire que le Bourg Habitat perd à peu près 70% de son excédent annuel. Son excédent, il était réinvesti dans des travaux. Donc, ça diminue la capacité d'investissement des bailleurs. Et par ailleurs, ça, c'est un impact qui nous a amené, m'en suis expliqué l'année dernière, la fin de l'année dernière avec les habitants, à être obligés d'étaler certains projets de rénovation sur le secteur du pont des Chèvres. Puis par ailleurs, le bouclage a été compliqué avec l'État et nous avons moins de moyens que nous ne l'espérions. Nous en espérions à peu près 20 millions, nous en avons à peine 14. Et donc, nous allons signer la convention d'ici la fin de l'année pour pouvoir engager les travaux de démolition d'abord, puis de réhabilitation des logements et les travaux de réaménagement sur le secteur du pont des Chèvres. L'objectif demeure, améliorer les conditions de vie des habitants. Vous savez, parfois, j'entends au niveau national, on a mis beaucoup d'argent, ça sert à rien. Je les invite à venir à Bourg-en-Bresse et à demander aux habitants de la Ressouze si le fait d'avoir investi des millions d'euros dans ce quartier, est-ce que ça n'a pas amélioré la vie des gens ? Moi, je crois que oui, et je le constate. Et je souhaite demain que ce soit la même chose au Pont des Chèvres dans les 5 ans qui viennent.
Est-ce que ça veut dire que la rénovation sera différente de celle qui était prévue avant cette baisse donc, des subventions ?
Elle pourra être parfois étalée dans le temps. Nous traiterons le domaine public avec qualité. Bourg Habitat engagera les programmes de réhabilitation thermique, notamment d'isolation des logements, avec le meilleur rythme possible. Non, nous n'allons pas faire les choses,
il n'y aura pas de rabais, quoi.
Nous n'allons pas faire les choses au rabais, mais c'est objectivement plus compliqué que ça ne l'était sur l'opération de la Ressouze, parce que les conditions politiques ont changé. Vous savez, moi, je ne fais pas de politique nationale quand je m'occupe de la ville de Bourg. Là, j'évoque ce sujet parce que là, c'est une décision du gouvernement, de la majorité, qui a été votée par les parlementaires et qui a un impact concret sur la vie des habitants. Pour le reste, je m'interdis de parler de politique nationale quand je parle de la ville. Là, il y a un vrai impact. Et oui, il y aura un étalement.
Ce sera plus long, mais nous ne ferons pas. Ce sera la même rénovation, mais plus étalé dans le temps.
Plus étalé dans le temps, et nous ne ferons pas les choses au rabais pour les habitants du quartier du Pont des Chèvres.
Donc, quelle nouvelle durée pour cette rénovation du Pont des Chèvres ?
Au lieu de le faire en 5 ans, on va peut-être mettre 8 ans pour tout faire. C'est globalement le risque, mais il a été présenté aux habitants, et nous commencerons évidemment par la réhabilitation des immeubles qui sont les plus en difficulté, sur lesquels il y a le plus d'enjeux, à la fois sur le côté du boulevard Édouard Herriot, le cœur de l'îlot Pont des Chèvres, et puis les habitants de la rue du Pont des Chèvres également de l'autre côté, en lien avec le secteur Aristide Briand.
Comment les habitants vont-ils être de nouveau inclus au projet ?
Eh bien, parce que le comité le citoyen continue de se réunir. Il sera saisi du projet de convention que j'ai reçu du préfet il y a 2 jours. Il en sera saisi à l'automne, au mois d'octobre. Et puis, nous allons par ailleurs poursuivre les réunions de quartier pour présenter ces projets. Les habitants qui sont concernés par les travaux seront concertés directement avec Bourg Habitat, par Bourg Habitat. Nous allons par ailleurs poursuivre les discussions pour que les Restos du Cœur puissent déménager. Ils sont au cœur du quartier, juste à côté de l'école.
Et
nous souhaitons repositionner à cet endroit-là tous les services sociaux qui sont actuellement sur le secteur du Pont des Chèvres pour en faire un vrai pôle. L'école, le centre de loisirs, les gymnases, l'accueil des habitants. Et enfin, nous allons travailler pour installer l'école du cirque en plein cœur du quartier du Pont des Chèvres, à la place de 2 immeubles qui vont être démolis. Et ça, c'est un vrai projet de diversité, de mixité. Ça répond à la fois aux besoins de l'école du cirque, qui est une école de grande qualité, qui accueille des gamins pour les familiariser avec les arts du cirque, qui a besoin de locaux. Et en lien avec eux, et avec le soutien de la communauté d'agglomération, et d'ailleurs de la région, nous allons réinstaller l'école du cirque sur l'îlot du Pont des Chèvres. C'est véritablement un vrai objectif. Vous savez, ce quartier, il souffre d'enclavement. Il est refermé sur lui et il a trop longtemps vécu comme ça, refermé. L'enjeu, c'est de l'ouvrir. C'est l'enjeu de la rénovation du boulevard. C'est l'enjeu de la démolition de certains bâtiments. C'est l'enjeu de la réimplantation de nouveaux services publics dans des quartiers qui étaient que des quartiers d'habitat social avec une population très précaire. Nous voulons que ces gens restent, mais nous voulons qu'il y ait d'autres apports.
Donc passons maintenant au carré Amyot. Les travaux pour le conservatoire ont repris cet été. La livraison est prévue pour fin 2020. Une chose reste à définir. Quel sera le projet immobilier à l'arrière du futur conservatoire ? Le projet initial, aujourd'hui résilié, prévoyait l'installation de boutiques et de bureaux. Un nouvel appel à projet est ouvert jusqu'au 20 septembre, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la semaine. À quoi peut-on s'attendre, monsieur le maire ?
Alors, ce sera un projet qui aura beaucoup moins de contraintes pour l'opérateur que ce que nous avions voulu. Parce qu'à l'époque, nous voulions vraiment, et ça a failli fonctionner. C'est pour ça que je me suis accroché au maximum avec un opérateur qui travaillait sur le sujet. C'était remettre 2 niveaux de grandes surfaces qui aujourd'hui sont en périphérie. Demain, nous aurons un bâtiment. C'est en tout cas le cahier des charges, avec un cahier des charges beaucoup moins contraignant, c'est-à-dire que les opérateurs devront nous proposer des restaurants, des commerces en rez-de-chaussée. À l'étage, en revanche, ils pourront avoir soit du logement, soit des bureaux, soit de la résidence senior, soit des activités diverses et variées. Et ils devront respecter les principes d'implantation, mais ils ne seront pas obligés d'utiliser l'intégralité de l'espace. Donc c'est un projet beaucoup plus classique dans ses fonctions que celui que nous avions imposé. Nous imposions que l'opérateur gère 4000 m² de grande surface pendant 10 ans, sans avoir la possibilité de revendre. Force est de constater que la conjoncture n'a pas rendu ce projet possible. Je sais que nous aurons des projets de qualité et que lorsque nous choisirons, au courant du mois d'octobre, je présenterai à la population le projet qui a été retenu. Celui-ci
Il sera pourrait y avoir un avis des habitants.
Non,
pour avis.
Non, on n'en est pas dans cette phase-là. L'avis, il a été recueilli à l'origine sur la question des fonctions. Qu'est-ce que l'on doit trouver à cet endroit-là? Et la concertation, plus l'élection municipale de 2014, a validé l'idée qu'il devait y avoir un bâtiment qui soit un vrai point d'entrée dans la ville depuis le champ de foire, qui attire tout de suite, qui fasse que dès que l'on traverse le carrefour, on se retrouve au centre-ville et qu'on trouve notamment un linéaire de commerce. Vous savez, dans une ville, l'important, c'est le linéaire de commerce. Quand vous avez des grands espaces dans lesquels il n'y a pas de commerce ou d'activité ou de terrasse, vous êtes dans un espace qui paraît loin. Moi, je veux que ce projet il rapproche le cœur de ville du principal point d'entrée qui est le champ de foire. Et donc, il n'y aura pas de discussion, de concertation sur la question de savoir si l'architecture doit être ceci ou cela. Nous présenterons le projet qui sera retenu et l'opérateur expliquera les conditions de sa réalisation. La condition que nous mettons, c'est qu'il débute ses travaux à l'automne 2020.
Et donc, il y aura toujours, le projet prévoit toujours des commerces. Pourquoi ne pas déjà utiliser ceux qui sont présents au centre-ville ou même il y a des commerces qui sont vides, avenue Maginot?
Le problème, ce n'est pas de déplacer des commerces qui sont aujourd'hui au centre-ville vers le carré Amyot.
Ou plus des commerces, c'est de mettre des commerces, dans le centre-ville.
C'est d'amener de nouveaux commerces qui aujourd'hui restent implantés en périphérie et qui vont venir s'implanter au carré Amyot parce que ça les intéresse d'être au carré Amyot. Moi, mon objectif, c'est la contrainte que nous mettons. Les opérateurs ne pourront pas venir en nous disant: j'ai récupéré deux ou trois boutiques avenue rue Gambetta et je vais les mettre au carré Amyot. Ça ne marche pas. L'objectif, c'est de générer une offre nouvelle qui permette d'avoir un ou deux restaurants avec, pourquoi pas, terrasse, et puis des commerces, mais qui peuvent être, qui ne sont pas installés aujourd'hui à Bourg-en-Bresse, ou qui développent un deuxième lieu. Ça, c'est possible. Mais nous n'accepterons pas un transfert de certains magasins vers le carré Amyot. Un mot sur la vacance commerciale. Vous avez parlé de commerces qui sont vides. Il y en a. Il faut savoir que la moyenne nationale de vacances commerciales, c'est-à-dire de commerces non utilisés, c'est à peu près 10% en France. Nous sommes aujourd'hui à 6%. C'est-à-dire que nous en avons presque deux fois moins parce que le plan commerce en ville porte ses fruits parce que notre ville est attractive. Une bonne partie de ces enseignes, de ces commerces sont fermées notamment parce que parfois elles sont trop petites pour que des gens puissent gagner leur vie dessus. Et donc là, nous allons monter une autre opération avec l'aide de l'État, c'est un programme dit Action Cœur de Ville, pour avoir une société foncière avec la Caisse des dépôts qui va pouvoir permettre d'acheter certains de ces commerces, de rénover le bas, et avec Action Logement, qui donc loge des salariés, qui investit dans le logement, réhabiliter des logements au-dessus des commerces pour pouvoir loger des habitants, pour pouvoir proposer à la location ou à l'accession à la propriété des logements en hypercentre. En restructurant les commerces, par exemple deux commerces vides qui seraient rejoints, qui seraient reliés et qui pourraient permettre du coup d'être un commerce exploitable. Aujourd'hui, lorsque vous avez une guérite qui fait 3 mètres de large et 6 mètres de long, c'est pas vrai que vous gagnez votre vie dessus et c'est le cas d'un certain nombre de commerces vacants.
Jean-François Debat, à propos du carré Amyot, pourquoi ne pas avoir retenu ce lieu pour y installer par exemple la maison de la culture et la citoyenneté?
Parce que l'objectif, c'est d'avoir une animation commerciale ouverte le samedi. Nous avons déjà un équipement culturel prévu, le conservatoire, qui sera juste derrière, dans l'ancien collège Amyot. L'objectif, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est que le carré Amyot, ce soit une façade d'entrée au centre-ville commerçant. Moi, mon objectif depuis des années, c'est de faire en sorte qu'on ramène vers la ville toutes les activités commerciales de restauration. J'en ai assez et c'est mon objectif et c'est ce que nous sommes en train de faire, que le commerce se développe à l'extérieur. Je veux qu'il se redéveloppe à l'intérieur. C'est pour ça que Decathlon viendra s'installer près du carrefour de l'Europe. Pour la Maison de la Culture et de la Citoyenneté, nous sommes, je voudrais l'indiquer, il n'y a presque pas, quasiment pas de ville en France qui sur un mandat, ce mandat avec les baisses de dotation de l'État, avec la suppression de la taxe d'habitation, ont ouvert des équipements culturels. Nous en avons rénové ou ouvert 3. Le Camus, la médiathèque Camus, a été rénovée. La Maison de la Culture et de la Citoyenneté va être reconstruite donc, sur le quartier. Et nous sommes en train de faire le conservatoire à rayonnement départemental, le conservatoire dans les locaux d'Amio. Le but, ça n'est pas de tout mettre au centre-ville, mais c'est effectivement de continuer à investir dans le développement culturel. J'en profite pour indiquer que d'ici la fin de l'année, nous validerons un programme avec la tannerie pour l'extension et l'amélioration de l'équipement de la tannerie dans les années à venir.
Donc la Maison de la Culture et de la Citoyenneté est en construction à côté de l'actuelle MJC et de la GLCA, la Maison des Associations.
Qui seront démolies.
Qui seront démolies. Et donc l'ouverture au public est prévue pour quand ?
L'ouverture au public est prévue pour le mois de janvier. Nous avons sur ce dossier, je vous le rappelle, accepté plus de 6 mois de retard pour permettre à la société nouvelle Florio de reprendre l'ancienne société. Et en acceptant ces 6 mois de retard, nous avons sauvé 110 emplois. 110 emplois. Et moi, j'ai souhaité que nous fassions cet effort pour permettre de donner une chance à ces salariés de garder un emploi, pour donner une chance à cette entreprise de repartir. Si j'avais voulu gérer mon calendrier préélectoral, je l'aurais géré sans penser à ces salariés. Je préfère qu'on livre un peu plus tard. Personne ne mourra si les associations déménagent 4 ou 6 mois plus tard. Personne ne mourra si la MJC déménage 6 mois plus tard. Ce sera au mois de janvier, entre janvier et mi-février. Je trouve que c'est le choix que j'ai fait et ça me paraissait justifié. Donc c'est une ouverture au début de l'année.
Autre chantier, on peut citer la rénovation de la piscine plein soleil réservée aux associations sportives et aux scolaires. Donc réouverture prévue début 2020. Et Jean-François Debat, il y a aussi le parc de la Madeleine. Une partie de l'ancien hôpital psychiatrique va être remplacée en 2022 par un ensemble immobilier. Un collectif s'est créé, le collectif La Madeleine Bourg. Ses membres s'inquiètent des conséquences écologiques sur les animaux, la nature et le patrimoine. Que répondez-vous à leurs inquiétudes ?
Alors d'abord, je les ai rencontrés. Il faut quand même savoir que j'ai rencontré ce collectif vendredi. C'est quand même une position extrêmement particulière, puisque ces membres, je les respecte, je respecte leur position. D'abord, ils sont fort peu nombreux. Ils avaient appelé une manifestation devant l'hôtel de ville à 17h15, juste avant notre rendez-vous, il n'y avait personne. Ils sont fort peu nombreux et très excessifs. Non seulement... en vrai, ils souhaiteraient en réalité que l'on n'aille même pas, peut-être pas dans le square, dans le parc de la Madeleine. Quand il y a de la lumière, quand il y a du bruit, effectivement, certaines espèces sont dérangées. Leur position, je l'ai quand même indiqué, ce sont des personnes qui, par exemple, sont contre la chaufferie bois. Parce que le bois, on ne devrait même pas le couper pour faire, pour se chauffer. Même si on replante derrière des arbres. Au total, le projet... Donc ce sont quand même des positions très extrêmes. Leur contre-projet coûterait, je dirais, à peu près 5 millions d'euros d'investissement pour réutiliser un bâtiment qu'aucun acteur économique ne sait réutiliser aujourd'hui. Aucun acteur économique ne sait réutiliser ce bâtiment parce qu'il est beaucoup trop étroit. En plus, vous admettrez quand même que sa façade est quand même particulièrement austère. Ça ressemble plus à une prison qu'à du logement. Il faudrait ensuite, soi-disant, créer un musée. Moi, je ne sais pas créer un musée de la psychiatrie pour 1 million d'euros par an sur les fonds publics. Je pense que cette critique est idéaliste, voire irréaliste. La vérité, c'est que nous sommes en train de bâtir un projet qui va contribuer à l'ouverture du parc et à l'amélioration également de l'attractivité de l'avenue Alphonse Baudin et du haut de la ville. Et que ce projet va évidemment amener plus d'activité sur le haut de la ville. Quant à l'impact sur les arbres, je le dis très tranquillement, je suis, comme chacun, très attaché à ce sujet. 6 arbres ou 7 arbres remarquables vont être déplacés avec aux frais du promoteur dans le parc de la Madeleine. Ils seront donc sauvegardés. 5 arbres vont être coupés. 5 arbres pour ce projet. Je pense que, clairement, les éléments que je leur ai apportés auraient dû normalement ou devraient normalement faire taire les inquiétudes, même si je les entends toujours par principe quand des habitants viennent me voir.
Au niveau national, Jean-François Debat, il y a quelques jours, Sébastien Lecornu, ministre des Collectivités, a reçu 12 de maires victimes de violences. Dans une interview sur Europe 1 fin août, le ministre a donné un chiffre, près de 370 faits d'agression de maires recensés en 2018. Le maire d'un village du Var est même décédé début août. Jean-François Debat, une réaction ?
D'abord, la mort du maire de Signes, c'est, je dirais, l'une qui a donc été renversée par des gens qui souhaitaient... Mais il y en a beaucoup chez nous aussi, hein, qui déposent des gravats un peu n'importe où. Une partie de certains artisans qui ne veulent pas aller, je dirais, payer en déchetterie ou payer dans les centres d'enfouissement qui sont liés à leurs activités. Et donc, il a voulu faire respecter la règle, il a été renversé et il en est mort. C'est évidemment dramatique. Ça doit nous interpeller sur le fait que, d'une manière générale dans notre société, la contestation de l'autorité est devenue presque systématique. Et que ceci, évidemment, ça ne peut pas durer. Le maire, même s'il n'a pas un pistolet à la ceinture, il représente l'autorité. Et donc, quand il donne un ordre ou une consigne, il doit être suivi. Parce que, et ça, c'est véritablement un problème civique. Moi, je constate simplement que la manière dont une partie, des gens s'adressent aux élus est beaucoup moins respectueuse, tout simplement. Je ne dis pas que les gens doivent tous nous dire « vous avez raison, c'est normal », etc. Il y a la manière dont on peut s'adresser. Et moi, je fais toujours baisser d'un ton lorsque mon interlocuteur est un peu énervé. Et en général, il le fait, par rappel aux règles. Et ça nous permet de dialoguer dans de bonnes conditions, même si nous ne sommes pas d'accord. Je pense que c'est une prise de conscience qui est nécessaire. Et il faut qu'à l'occasion des élections municipales, les habitants sachent aussi qu'en élisant un maire dans une petite commune, aussi dans une ville, une grande ville comme, ou une moyenne ville comme la nôtre, il lui donne un certain nombre de prérogatives, de pouvoirs, et qu'il a donc le droit, et même le devoir, de faire respecter un certain nombre de règles collectives. C'est pour ça que nous sommes élus, et moi j'apporte tout mon soutien aux élus, notamment dans les petites communes, des communes rurales de la CA3B par exemple, ou les autres communes de France, parce que c'est une activité difficile, et il est important que les habitants manifestent de la compréhension et du respect vis-à-vis des actes des maires.
Les élections municipales sont dans 6 mois, elles auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Face à ces violences, à la baisse des moyens, avec toujours plus de missions à assurer, des maires renoncent à se présenter pour un nouveau mandat. Alors Jean-François Debat, êtes-vous candidat pour un troisième mandat à la tête de Bourg-en-Bresse ?
Alors d'abord, je vais faire une remarque sur les maires qui ne se représentent pas. Vous savez, il y a à peu près 30% des maires, 25% à 30% des maires qui, à chaque renouvellement, ne se représentent pas. Si vous faites le calcul, ça signifie qu'ils ont fait 3 mandats en moyenne, puisque dans beaucoup de communes, il y a une élection, bien sûr, mais il n'y a pas forcément de concurrence. Donc, ça ne me paraît pas spécialement alarmant. Il est vrai qu'un certain nombre de collègues m'avaient dit, par exemple, il y a un an, « Ah, j'arrête ». Et puis, je les ai revus à la rentrée. Ils me disent, « Ah, je vais peut-être continuer quand même ». Donc, je ne pense pas que nous aurons cette saignée dont on nous parle, même s'il est vrai que beaucoup d'élus se posent des questions. Mais moi, je m'en pose toujours. J'ai indiqué au début de l'été que je réfléchissais à cet engagement, parce que pour moi, il ne s'agit pas... Bien sûr que je suis passionné par ce que je fais. Bien sûr que les Burgiens savent que je suis passionné par Bourg. J'ai envie de la faire bouger, de la faire évoluer dans le bon sens, de la faire progresser. Donc la question n'est pas là. La question, c'est que si je m'engage, c'est pour un mandat de 6 ans. C'est pour exercer ce mandat. Et c'est donc pour consacrer l'essentiel de mon énergie à Bourg, à la ville et à l'agglomération, et donc pas à autre chose. Et c'est cela pour lequel j'ai dit que je voulais réfléchir, parce qu'on ne peut pas dire simplement « je suis sortant, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, voire qui souhaitent que je sois de nouveau candidat, donc j'y vais sans se poser trop de questions ». Lorsque j'annoncerai ma décision, et ce sera à l'automne, ça commence le 21 septembre, et bien jusqu'au 21 décembre, donc... à l'automne, dans quelques semaines, eh bien, si je décide de repartir, c'est parce que j'aurai fait l'analyse que je suis prêt à m'investir totalement, comme je le fais depuis 12 ans, pour Bourg et pour son agglomération. Et c'est ça qui, pour moi, est important, parce que c'est la condition pour pouvoir dire ensuite aux gens « voilà ce que je vous propose ». Et il est clair que si je devais être candidat, je ne serais pas candidat à un mandat parlementaire pendant cette période, et notamment puisqu'on me prête beaucoup d'intentions. Si j'étais candidat, je ne serais évidemment pas candidat au sénatorial en septembre 2020, c'est-à-dire quelques mois seulement après l'élection municipale.
Et après la région, peut-être ?
C'est un autre sujet. Personne ne peut savoir comment les choses se passeront. C'est une situation qui, aujourd'hui, n'est pas une situation réelle. Moi, je me pose la question de la réalité. La réalité, c'est de me positionner pour savoir si je propose aux Burgiens, ça serait une première depuis 1959 que de réélire 3 fois le même maire, si j'ai en moi cette envie, vous sentez que je l'ai. Il me faut formaliser et finaliser cette réflexion. À ce moment-là, eh bien, je l'indiquerai aux Burgiens. Et si je sollicite de nouveau leur suffrage, ils auront une certitude. C'est que je ne l'ai pas fait juste comme cela, par habitude, mais simplement parce que j'en ai véritablement la motivation et que je suis prêt à mettre toute mon énergie au service de ma ville.
Et donc, si vous êtes candidat donc à votre propre succession, vous aimeriez donner quel ton à votre troisième mandat ?
Vous savez, je pense que d'une manière générale, vous avez bien vu, si vous suivez ce que j'écris et ce que je lis, c'est que moi, j'ai fait partie des gens venant de la gauche, mais il y en a aussi venant de la droite, qui ont vraiment fait une conversion écologique.
Oui, parce on le voit beaucoup, considère... vous retweetez beaucoup de choses sur l'environnement.
Je considère vraiment que on doit changer de... On est en train de le faire à Bourg. On va avoir, par exemple, les premières pistes cyclables bidirectionnelles. Avenue Jean-Marie Verne, on va avoir les vélos, on n'aura plus une piste de chaque côté, on aura les pistes, les vélos du même côté, protégés des voitures. Il faut que nous passions des caps que nous n'avons pas passés jusque-là. Il faut que nous engagions des réflexions sur la production énergétique pour que Bourg devienne une ville qui produit de l'énergie le plus possible au fil des années en lien avec la communauté d'agglomération. Il faut que nous intensifions nos efforts en matière de transport public, de vélos. Vous avez vu le déploiement des vélos libre-service qui sont un vrai succès. Il faut que nous allions également développement économique et transition écologique, notamment dans la protection des sols pour éviter des consommations inutiles d'espace. Tout cela, c'est de toute façon ce que nous devrons faire dans les années à venir. Et effectivement, c'est un sujet qui pour moi est très important. C'est de voir comment on peut demain vivre différemment, se loger différemment, habiter différemment, se déplacer autrement, produire autrement, parce qu'il faudra toujours produire des richesses, mais le faire dans d'autres conditions qu'aujourd'hui. Et pour cela, eh bien, il faudra embarquer tout le monde pour pouvoir le faire. Et c'est un des éléments que j'ai dans la tête. Parce que Bourg, comme les autres villes de notre pays, en ont non seulement besoin, mais que ça urge.
Donc ça veut dire du changement au niveau de votre équipe aussi.
Écoutez, ça, on en parlera lorsque le moment sera venu. Pour le moment, l'équipe est au travail parce que nos projets ne sont pas finis. On a évoqué, le mandat n'est pas terminé, c'est en mars. Jusqu'à la fin de l'année, l'ensemble de l'énergie de toute l'équipe n'est pas sur l'élection qui aura lieu en mars. Elle est sur le fait de poursuivre les projets que nous sommes en train de faire. J'avais lancé un appel pour la débitumisation de certaines cours d'école, c'est-à-dire enlever du goudron dans les cours d'école pour planter des arbres à la place. Il y aura une expérimentation au mois d'octobre. Donc nous sommes sur les projets. La question du casting viendra bien plus tard.
Donc Jean-François Debat, l'invitation est lancée une fois que vous aurez pris votre décision. Jean-François Debat, merci. Vous êtes le maire de Bourg-en-Bresse. Vous êtes aussi président de la communauté d'agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse et conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Bonsoir.
Radio B.
Cette prison-là, elle était un peu spéciale parce qu'on était 1600 prisonniers détenus au fond du désert vers les frontières égyptiennes. Où il fait très très chaud l'été, très très froid l'hiver. C'était loin de l'endroit où ils habitent les parents, c'était à 85 heures de route pour les visites. Plus que moi, j'avais ma famille en France, aussi la moitié de ma famille en France, qu'elle n'avait pas le droit de venir me rendre visite, qui c'est une circonstance difficile de plus. Bah le but de l'emprisonnement, c'est de briser la volonté d'un prisonnier. Alors le système, il est tout à fait prêt pour briser cette volonté, le transfert, les interrogatoires, la négligence médicale. Il y a plein de circonstances qui sont très très difficiles.
Restez à l'écoute du 90 FM. La suite, c'est dans quelques minutes.
wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond.
James Bond.
She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond.
Sur Radio B 90 FM, vous venez d'écouter Shockwave de Liam Gallagher et James Bond d'Iggy Pop. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Salah Amouri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, citoyen français, vous avez le statut de résident à Jérusalem. Votre mère est née à Bourg-en-Bresse, elle a vécu dans le quartier des Vennes et votre père est palestinien. Fin août 2017, vous avez été arrêté chez vous par l'armée israélienne à Jérusalem-Est et placé en détention administrative sur ordre du ministre de la Défense. Salah Amouri, au début, c'était pour 6 mois, mais votre détention administrative a été prolongée 2 fois. Il y a bientôt 1 an, le 30 septembre 2018, vous sortiez de prison. À votre arrestation, à votre sortie de détention, vous ne saviez pas pourquoi vous aviez été arrêté. Est-ce que maintenant c'est le cas ?
Bonjour à vous. Merci pour me recevoir aujourd'hui. C'est toujours le même cas, on ne sait pas. En fait, la détention administrative, c'est une détention qui est classifiée comme une détention sous ce qu'on appelle le dossier discret, où moi, je n'ai pas le droit de savoir pourquoi j'étais en détention. Mon avocat aussi, c'était juste un bout de papier de ce qu'ils appellent le ministre de la Défense israélienne, qui disent que Salah Amouri est considéré comme dangereux sur l'État d'Israël. Et juste cette phrase, ça suffit de me mettre 13 mois en prison.
C'était pas la première fois que vous étiez allé en prison.
Non. C'était la 4e fois. J'étais arrêté la première fois en 2001. J'avais 16 ans. J'étais arrêté pour 6 mois. En 2004, j'étais étudiant à la fac. J'étais arrêté encore une fois pour 5 mois en détention administrative. En 2005, encore une fois, j'étais jugé pour 7 ans. De 2005 jusqu'à 2011. Et récemment, cette fois-ci, 13 mois en détention administrative.
Donc, À chaque fois, la détention administrative.
Non, deux fois j'étais jugé. La première fois, j'étais jugé d'être membre d'un syndicat d'étudiants à Jérusalem, qui était interdit par l'armée israélienne. Et la troisième fois, j'étais jugé d'avoir l'intention d'assassiner un rabbin d'extrême droite et d'être membre du Front populaire de la libération de la Palestine.
Donc, il est considéré par Israël comme étant une organisation terroriste.
Oui, et en tout cas, il faut le dire qu'il n'y a aucun parti politique palestinien qui n'est pas déclaré comme parti terroriste.
Claude Bardet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association France-Palestine Solidarité de l'Ain. Vous êtes venu plusieurs fois à la radio pour nous parler de Salah Hamouri. Qu'est-ce qui a poussé, selon vous, les autorités israéliennes à emprisonner Salah Hamouri ?
Alors ça, on n'est pas dans leur tête, mais nous, ce qu'on constate en tous les cas, c'est que Salah a réussi son diplôme pour être avocat le 20 ou le 21 août et qu'il a été arrêté le 23 août. Donc nous, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même un lien entre les deux choses et que ce que veulent les autorités israéliennes, c'est l'empêcher d'exercer son métier d'avocat et puis peut-être aussi l'empêcher tout simplement de rester en Palestine.
Vous partagez cet avis, Salah Hamouri ?
Bah, écoute, comme tous les Palestiniens, le but de l'emprisonnement des Palestiniens, c'est de détruire leur vie sociale, leur vie familiale. Moi, à côté de mes emprisonnements à moi, par exemple, moi j'étais interdit des territoires de la Cisjordanie pendant 2 ans, entre les années 2014 et 2016. En 2016, quand ma femme elle était enceinte de 7 mois, on revenait de vacances en France. Elle était arrêtée à l'aéroport de Ben Gurion. Elle était restée 3 jours et après, elle était expulsée en France pour pas qu'elle accouche à Jérusalem. Après, j'étais arrêté. Moi, je pense que le but de l'emprisonnement, que ce soit il y a quelque chose ou il n'y a pas quelque chose, vu les choses qui se sont faites à côté, c'est juste pour faire partir les gens de Jérusalem, de Palestine, pour leur dire allez vivre ailleurs, choisissez un autre endroit où vous pouvez vivre mieux qu'ici. Quoi.
Alors Claude Bardet, vous dénoncez cet usage massif, abusif par Israël de la détention administrative qui, on peut le rappeler, existe dans le droit international.
Tout à fait, moi je ne suis pas juriste et donc je parle sous le contrôle de Salah, mais la détention administrative, elle n'est pas complètement absente du droit international, mais elle devrait être utilisée dans des cas tout à fait exceptionnels, alors qu'Israël en fait, à la suite de des autorités britanniques pendant qu'ils avaient le mandat en Palestine, comme Salah l'a rappelé tout à l'heure, ils en font un usage massif, ce qui est là totalement contraire au droit international.
Ce que vous disiez, Salah, donc il y a plus de 400 personnes qui sont en détention, placées en détention administrative en ce moment, et ça on en reparlera un petit peu plus tard. Donc Salah Hamouri, vous avez passé plus d'un an en détention dans une prison dans le désert du Negev. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 13 mois de détention ?
Ces circonstances sont partout les mêmes choses, partout dans les mêmes prisons. Cette prison-là, elle était un peu spéciale parce qu'on était 1600 prisonniers détenus au fond du désert vers les frontières égyptiennes où il fait très très chaud l'été, très très froid l'hiver. C'était loin de l'endroit où ils habitent les parents. Plus que moi, j'avais ma famille en France qui aussi, la moitié de ma famille en France, qu'elle n'avait pas le droit de venir me rendre visite. Bah, le but de l'emprisonnement, c'est de briser la volonté d'un prisonnier. Alors le système, il est tout à fait prêt pour briser cette volonté, le transfert, les interrogatoires, la négligence médicale. Il y a plein de circonstances qui sont très très difficiles.
Qu'est-ce que vous faisiez pendant vos journées ?
Alors nous, il faut le dire que nous, on n'était qu'entre prisonniers politiques, on n'était pas mélangés avec d'autres prisonniers. Vu la vie des prisonniers politiques, ils étaient bien conscients que le but, c'est de leur briser la mentalité et leur psychologie. Alors nous, on a tout fait l'inverse pour profiter de ce temps et de et de rendre utiles ces années d'emprisonnement. Alors on avait des jours un peu organisés entre nous, ça veut dire réveil collectif, on mangeait collectivement, la cour, une heure de sport le matin, et des cours, malgré qu'on était interdit de continuer nos études et recevoir certains livres, mais on avait des livres quand même, alors on lisait quelques heures par jour. Alors c'était une vie collective solidaire qui nous a aidé vraiment à tenir le coup pendant ces années.
Il y a eu une petite période où tu as été transféré dans une autre prison et où là tu avais été à l'isolement.
Ouais, là j'étais transféré à la fin de l'année 2017, accusé d'avoir sorti un article dans le journal L'Humanité. Les autorités israéliennes depuis la France, que j'ai sorti un article. J'étais transféré dans une prison assez loin dans le nord de la Palestine, vers Haïfa, où les circonstances sont vraiment un peu plus dures. J'ai passé un mois là-bas, après je suis retourné dans le Negev.
Et ça, vous le saviez quand vous avez écrit l'article, qu'il y avait ce risque, que vous encouriez ce risque d'être transféré, d'être à l'isolement?
Personnellement, je ne pense pas que la prison, c'est là où on permettra à l'occupation israélienne de briser notre volonté et de cacher nos idées politiques. Alors, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je savais qu'il y aura certains risques. Mais on le fait quand même parce que pour moi, la prison, c'est la place, c'est pas l'endroit qui va me pousser à arrêter mes convictions politiques et arrêter de lutter contre cette occupation.
Est-ce que vous, Claude Barlet, voulez ajouter quelque chose?
Oui, mais je voulais dire, c'est que quelquefois, quand nous, on manifeste en France pour vous soutenir, on nous dit oui, mais si vous faites trop de choses, c'est les prisonniers qui vont en pâtir. C'est, dans ton cas, c'est ça là qui va être puni, qui va être brimé, qui va être mis à l'isolement. Mais nous, on dit, ils le savent, mais eux, ils veulent qu'on parle d'eux.
À l'inverse, moi, je pense que la mobilisation et la solidarité en France qui a été faite pour moi et pour les autres, ça fait de protection de plus pour les prisonniers, parce que au moment que l'occupation israélienne, elle comprend que ces prisonniers ne sont pas tout seuls, et à l'inverse qu'il y a des milliers de gens qui leur soutiennent autour du monde, en France ou ailleurs, ça leur fait de la protection supplémentaire, parce qu'au moment qu'ils vont toucher aux prisonniers, ils savent qu'il y a une opinion publique autour, qu'elle va commencer à parler, à manifester, à demander de respecter les droits de prisonniers. Alors je suis tout à fait à l'inverse de cet avis, moi je pense que cette mobilisation, on doit l'élargir de plus en plus.
Est-ce que vous aviez des échos justement de cette mobilisation qui avait en France pour demander votre libération?
Alors moi j'étais au courant, mais j'étais pas au courant de tout, bien sûr. Moi je recevais la visite de ma mère et ma famille une fois par mois. C'est là où j'avais les informations qui me disaient oui, il y a un mouvement de solidarité en France qui demande votre libération. En plus que j'avais aussi la visite une fois par mois aussi de le consul de France à Tel Aviv. Lui aussi il me parlait qu'il y a certaines demandes pour ma libération.
Claude Barlet, vous l'aviez dit, les demandes des autorités françaises, y compris du président Emmanuel Macron, en personne à Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, n'ont eu aucun effet sur les autorités israéliennes. Même le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait demandé sa libération immédiate. Qu'est-ce qui fait qu'il y a bientôt un an, on a décidé de vous libérer?
Si on parle de la logique, si moi, avant les 13 mois, j'étais un danger sur la sécurité d'Israël, pourquoi après 13 mois je ne serais plus un danger sur la sécurité d'Israël? Si c'est ça la logique, si on parlait dans leur logique. Moi je pense qu'eux ils avaient un but en tête. On ne sait pas c'est quoi le but exactement dans leur tête. Et il y avait aussi à côté cette demande, cette pression française, si on veut dire, au début, surtout publique, qui a obligé les autorités françaises à faire la demande.
Ah, sur les autorités françaises, puis quand même le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Le Conseil des droits de l'homme, même Amnesty, ils ont fait une demande. Mais je crois que le problème avec l'occupation israélienne, que tant que la France, elle tape pas sur la table, tant que ça reste entre paroles, je ne crois pas que les autorités israéliennes vont écouter M. Macron ou d'autres présidents. Parce que le prétexte, quand j'avais passé 7 ans, que moi j'étais jugé pour quelque chose. Mais là, j'étais en détention administrative pour rien. Alors normalement, pour les autorités françaises, il y a un Français qui est détenu illégalement dans un autre pays. Il faut chercher la libération. À l'inverse de l'autre cas, on a vu comment monsieur le ministre des Affaires étrangères, il est allé jusqu'à en Turquie pour chercher le journaliste français qui est détenu par... on a vu la France, et, dans d'autres cas, en Mexique ou ailleurs, elle est allée jusqu'à faire des crises diplomatiques pour demander la libération des Français. Mais le problème, quand on parle d'Israël, malheureusement, la France, comme d'autres pays, elle continue de traiter Israël comme un pays au-dessus de loi internationale. Et c'est ça le problème. Au moment où la France... elle tape sur la table, elle demande sous menace de je sais pas, c'est sûr que la France elle a plein de moyens de pression sur Israël. Si ces moyens ne sont pas bougés, les Israéliens ils vont bien sûr pas écouter la France.
Vous attendiez à ce qu'il y ait une plus grande mobilisation de l'État français?
Bien sûr, j'ai bien attendu que la France elle réagisse plus fort. Parce qu'il y a un Français qui est détenu depuis des mois, alors que sa femme elle est interdite de retourner. Il ne peut pas voir son fils aussi. Et la France, tu entends à chaque fois, même quand dans les rencontres, après j'ai su ça, les rencontres du comité de soutien, que ce soit à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, il y avait vous avez raison, mais. Mais on peut, oui, on va faire une demande, oui, on a parlé. Et ce qui est dur aussi, que médiatiquement, la France officielle n'est pas à s'exprimer médiatiquement en temps officiel, quoi. Ils n'ont pas parlé dans la presse officiellement. C'était sous la table, pour ne pas toucher à l'image d'Israël. Et ça, c'est un autre problème.
Claude Bardet, à ce sujet.
Oui, tout à fait. Toutes les fois que soit l'Élysée, soit le ministère des Affaires étrangères était interpellé sur cette question, on nous disait on a écrit, on en a parlé, etc. Mais il n'y a jamais eu de déclaration officielle, ferme, de la part des autorités françaises pour exiger une déclaration officielle pour exiger la libération de Salah. Ça, on ne l'a pas eu. Et je ne parle pas, évidemment, de poser des actes, d'aller plus loin, de poser des actes, y compris, en particulier sur le plan diplomatique, voire plus. Et là-dessus, la France n'a pas été du tout, les autorités françaises n'ont pas du tout été à la hauteur.
Sans faire de la géopolitique, comment vous expliquez simplement cette relation qu'il y a entre la France et Israël ?
Il y a beaucoup de causes à tout ça. Il y a, je pense, d'une part, des raisons internes à la France où un certain nombre de gens font pression sur le gouvernement, sur le président de la République, sur les élus locaux également, sur les médias, etc. En disant, si vous critiquez Israël, c'est que vous êtes antisémite. Et donc, l'antisémitisme étant condamné, vous êtes hors la loi. Donc ça, c'est une chose qui monte de plus en plus en France, sous l'influence d'un petit groupe de lobbyistes pro-israéliens qui utilisent cet argument-là. Il y a aussi des arguments géopolitiques qui sont de plus en plus compliqués à comprendre, parce que la géopolitique du Moyen-Orient, s'il y a un moment où on savait qui aimait qui et qui n'aimait pas qui, depuis quelques années, ces alliances sont mouvantes. Une année, la Turquie va être contre Israël, et puis deux ans après, la Turquie est prête à s'allier Israël. Donc voilà. Donc on a des alliances géopolitiques qui sont variables, et on a l'impression que à l'intérieur de cette réorganisation politique, diplomatique, la France ne se positionne pas d'une façon claire et précise comme elle le faisait il y a quelques décennies de ça, où la France était presque en avance pour déterminer une ligne, alors qu'aujourd'hui, la France reste dans une position très, très suiviste, et en particulier très suiviste des États-Unis, malgré la présence de Trump au niveau de la présidence et ses coups de folie politique. Pour autant, la France ne se dédouane pas complètement de ce suivisme-là.
Salah Mouri, vous avez dit vouloir poursuivre votre master de droit et reprendre votre travail comme avocat. Est-ce que c'est le cas ?
J'ai repris mes études dans master de droit. Normalement, en avril, je serai diplômé après avoir posé ma thèse. Et là, je travaille en tant qu'avocat dans une association qui s'appelle Ad-Damir Ramallah pour défendre les droits des prisonniers politiques.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces prisonniers politiques palestiniens en Israël ?
Bah, aujourd'hui, il se trouve 5500 prisonniers politiques. Parmi ces prisonniers, il y a 230 enfants de l'âge de 13, 14, 15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a 62 femmes. Il y a 1000 prisonniers malades. Malheureusement, il y a une semaine, il y a quelques jours, un parmi eux qui était mort dans la prison Israël. Il faut dire que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, et ça c'est une politique israélienne, qu'elle ne rentre pas les corps morts de ces prisonniers et les garde jusqu'à la fin de leur peine, malgré qu'ils sont morts. Là, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a 4 prisonniers qui sont détenus dans les frigos israéliens, que Israël refuse de libérer leur corps. Et il y a encore 80 prisonniers qui ont dépassé 25 ans dans les prisons. Il y en a 6 ou 7 qui ont dépassé 30 ans en prison. C'est le système, moi je pense, le système d'incarcération israélienne, il n'a rien à voir avec la sécurité d'Israël. Ça fait partie de la du plan de la destruction de la société palestinienne, parce que si on comprend que depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, il y a 850 000 Palestiniens qui sont fait arrêter par l'armée israélienne, ça veut dire plus que 30% de la société, elle s'est fait arrêter. On comprend bien que c'est rien à voir avec la sécurité. Plus qu'on voit, qu'on comprend le système économique dans les prisons, comment Israël gagne de l'argent sur les dos de ses prisonniers. Par exemple, les grandes cautions qu'on paye chaque prisonnier quand il est jugé. Quand on voit que chaque prisonnier, il est obligé de payer entre 300 et 400 euros par mois pour la cantine pour pouvoir manger, alors que les prix sont hors de prix, on voit qu'aussi il y a une gagne économique pour Israël de ces prisons. Il y a un intérêt aussi pour eux d'avoir le plus nombre de prisonniers dans ces prisons. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'isolement total, il y a un système d'isolement total où il y a des dizaines de prisonniers qui se trouvent dans des petites cellules de 2 à 3 mètres, isolés 23 heures sur 24 heures, tout seuls, dans des circonstances très très difficiles.
Et alors comment vous comptez maintenant les aider, ces personnes, justement? Alors, à travers cette association dont vous parliez.
Ouais, bah aujourd'hui, on est au milieu d'une tournée qu'on a commencé il y a quelques jours avec le comité de soutien. J'en ai déjà fait une... juste après ma sortie. Moi, je pense de créer déjà une opinion publique en Europe et ailleurs sur la question des prisonniers, de me faire pression sur les gouvernements partout pour commencer un travail de solidarité à long terme avec ces prisonniers. Parce que tant qu'on n'arrive pas à les libérer, au moins qu'ils sachent que nous, on est là à les soutenir, à aider, à parler d'eux, parce que c'est vrai que moi je suis sorti cette fois-ci, mais il reste encore des milliers derrière. Parmi eux, il y a des gens qui sont jugés, il y en a 500 ou 600 même aujourd'hui, qui sont jugés à vie. Il n'y a pas de date de libération. Pour eux, nous, on est le pont d'espoir à l'extérieur, pour eux dans les cellules. Alors moi, je pense qu'il faut élargir ce mouvement de solidarité en France et ailleurs pour eux.
Claude Bardet.
Un homme sur deux et passe en prison dans sa vie en Palestine. Et c'est quelque chose qui a un impact énorme sur la société palestinienne. Bien sûr, le fait d'être emprisonné, privé de sa famille, que la famille soit privée du prisonnier, etc. Mais ça a également un impact économique énorme. Salah a parlé du fait qu'il faut payer pour être en prison, il faut payer ses repas, il faut payer tout, mais aussi il faut payer des avocats et aussi il faut payer pour être libéré sous caution. L'emprisonnement est une source de revenus pour Israël et c'est une source de dépenses importantes pour les Palestiniens. Une fois, un Palestinien me disait, je ne sais pas si ça la confirmera, mais que pratiquement chaque famille de Palestiniens met de l'argent de côté pour, au cas où il y a un prisonnier chez lui, pour payer la caution, pour payer un avocat, ou s'il y a un prisonnier actuellement, pour payer l'avocat, pour payer la caution, etc. Donc dans le budget quotidien des Palestiniens, l'emprisonnement est un facteur important.
Et vous, en quelques mots pour terminer, à votre échelle, dans l'Ain, qu'est-ce que vous prévoyez pour aider ces Palestiniens placés en détention administrative, placés en détention tout court ?
Depuis un certain nombre d'années, la FPS avait développé un système de parrainage de prisonniers politiques qui a quelques difficultés à fonctionner puisque le principe c'était d'écrire à des prisonniers. Or, de plus en plus, les courriers n'arrivent plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écrire parce qu'au moins les autorités israéliennes savent qu'on s'intéresse aux prisonniers. Mais on est en train de travailler à d'autres mises en œuvre de ce parrainage, peut-être en établissement des liens avec les familles. C'est quelque chose qui est en train de se reconstruire.
Salah Hamouri, Claude Bardet, merci.
Merci, à vous. Merci beaucoup.
Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, détenu pendant plus de 13 mois par Israël. Il y a bientôt un an, il sortait de prison. De passage à Bourg, il a donné une conférence pour parler de ses conditions de détention et de la situation des prisonniers palestiniens. Il était accompagné de Claude Bardet, président de l'association France-Palestine Solidarité de l'Ain.
Radio B.
Radio B.
Quelques infos en bref. Grève nationale des agents des impôts, l'appel de l'intersyndicale. Un mouvement en réponse à l'annonce de la suppression de près de 5 800 postes par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Autre inquiétude, la disparition de trésoreries un peu partout en France. Dans l'Ain, la direction départementale annonce 50% de grévistes. Ce chiffre étonne les responsables syndicales. La plupart des structures du département étaient fermées aujourd'hui. Une centaine de personnes étaient réunies devant la direction départementale. Les syndicats de l'Ain craignent la suppression d'environ 50 postes et s'inquiètent de la prochaine création de points de rencontre gérés par les collectivités pour l'animation et leur financement. Rassemblés en assemblée générale, les syndicats de l'Ain ont voté pour une mobilisation chaque jeudi dans un site différent du département. Ce 19 septembre, ils appellent les agents à se réunir dès 7h30 au centre des impôts de la Grenouillère. De son côté, l'intersyndicale du Rhône reconduit le mouvement demain. Dévoiler le voile dans l'art de l'Antiquité à nos jours, l'exposition de peintures, photos ou encore de sculptures est à découvrir jusqu'au 29 septembre au monastère royal de Brou. Près d'une centaine d'œuvres est présentée. Elles datent du 4e siècle à nos jours, proviennent de 4 des 5 continents. L'entrée est à 9 euros gratuite pour les moins de 26 ans. Retrouvez tout le programme sur le site du monastère monastère-de-brou.fr. L'actu revient dès demain matin sur Radio B dans la matinale de 7h à 9h. Le point sur ce qui se passe près de chez vous en France et dans le monde. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Si vous avez pris en route ce magazine, plusieurs créneaux pour le réécouter. Le mardi à 9h, mercredi à 13h, vendredi à 19h et samedi et dimanche à 8h. Lundi prochain, le 23 septembre, numéro spécial sur le quartier du Pont des Chèvres en partenariat avec l'hebdomadaire La Voix de l'Ain, un dossier dans le cadre des futures élections municipales à Bourg-en-Bresse.
Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Les personnes qui arrivent d'Afrique, les personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.